Hey les filles, vous vous souvenez de notre podcast sur Emily Dickinson?
Oui, il était vraiment super.
Et bah aujourd'hui, je vous propose une autre poétesse, Sylvia Plath.
Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement « Bonjour ».
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Bonjour à tous.
Salut. Bonjour.
Bienvenue dans ce nouveau podcast Banana. Dans cet épisode, nous explorerons la vie fascinante et la carrière poétique de Sylvia Plath, une figure emblématique de la littérature du XXe siècle.
Elle est née en 1932 dans la banlieue de Boston, donc dans l'état de Massachusetts, aux États-Unis. Donc son père est un immigré allemand et sa mère est une américaine aux origines autrichiennes. Elle est une enfant très douée qui était très forte à l'école. Elle va même publier son premier poème à l'âge de 8 ans. Malheureusement, la même année, son père va décéder suite à une infection, suite à l'amputation d'une jambe gangrenée.
Et très jeune, elle dit qu'elle veut être la femme qui veut être tout, mais elle est assaillie par le constat de n'être considérée comme rien, en tout cas par les hommes, par cette société patriarcale dans laquelle elle vit.
Et elle dit « J'écris pour une seule raison, il y a en moi une voix qui refuse de se laisser réduire au silence ». Et du coup, c'est là qu'elle va commencer à vouloir devenir écrivaine. D'ailleurs, sa mère elle-même, Aurelia Plath, était écrivaine.
D'ailleurs, justement, par rapport à sa mère, elle va avoir une relation très compliquée parce qu'en fait, déjà, le fait d'avoir perdu son père aussi jeune, ça a fait qu'elle a toujours ressenti une sorte de manque. Mais elle a aussi énormément reproché à sa mère, en fait, la mort de son père.
C'est justement ça, ouais. Les principaux thèmes de ses poèmes, de ses œuvres, ça va être son intérêt pour la mort, la souffrance et la quête de sens.
Et un des poèmes qui m'a particulièrement touchée, et je pense que vous toutes aussi, c'est celui-ci. « Je voyais ma vie se ramifier sous mes yeux comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, un avenir merveilleux, tel une grosse figue violacée, me faisait des clins d'œil. L'une des figues était un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre. Une autre, un brillant professeur. La dernière chose que je voulais, c'était bien la sécurité infinie et être l'endroit d'où part la flèche. Je voulais des changements, de l'excitation. Je voulais moi-même partir dans toutes les directions. » Comme les traînées colorées des fusées du 4 juillet. Du coup, ces poèmes, ils sont tirés de, comme tu as dit, de ses propres expériences sensorielles et personnelles.
L'utilisation qu'elle fait de la figue comme métaphore,
Je trouve ça hyper. Les branches,
Je trouve ça hyper.
Figuier. Poétique.
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 Ça laisse pas insensible.
D'ailleurs, pour elle, ça a été compliqué aussi d'écrire enfin, tous ses poèmes parce qu'elle a été très exigeante. Et je sais qu'elle se donnait énormément de défis et de choses à faire. Par exemple, elle se donnait défi d'écrire des poèmes tous les jours. Elle voulait absolument. Elle faisait des sortes de listes de choses à faire. De, par exemple, parler toutes les langues, rencontrer.
Elle est incroyable.
Rencontrer W.H. Auden. Non, mais elle ne parlait pas toutes les langues, mais elle avait comme objectif de le
faire.
Ouais,
mais même genre, avoir la volonté de faire ça tous les jours.
Mais oui, aussi. Mais du coup, c'était ce truc, c'est qu'elle se donnait trop, elle avait trop de pression. Et en fait, le truc, c'est qu'elle voulait tellement faire tellement de choses qu'elle ne se donnait pas le temps de faire. Peut-être de prendre plus de temps, parce qu'elle était tellement exigeante, elle n'était jamais satisfaite. Pareil, elle se donnait le défi de peindre, jouer du piano. Et c'était jamais assez, en fait. Et dès que c'était à l'arrivée à réaliser ses défis, elle s'en donnait encore des encore plus gros. Quand par exemple, après avoir fini un poème, cette fois-ci, elle se donnait le défi d'écrire un roman. Et dès qu'elle échouait, en fait, j'ai écouté dans le podcast, justement, c'est qu'une des femmes, elle expliquait que c'est que le fait d'avoir été très très bonne à l'école, d'avoir été une très bonne élève, ça a aussi un peu joué dans son développement et ça a été un peu compliqué pour elle parce qu'en fait, quand tu es habituée à avoir des bonnes notes et à toujours être bon, dès que l'échec est très compliqué et beaucoup plus compliqué pour toi à accepter en fait.
Oui, tu dis qu'elle c'était une élève exceptionnellement douée et oui, parce qu'en fait, elle a reçu une bourse pour étudier à Smith College où elle a excellé en littérature anglaise et plus tard, elle a poursuivi ses études à l'université de Cambridge en Angleterre où elle a d'ailleurs remporté un concours de poésie.
Et là où elle a rencontré du coup en juin 1956 son futur mari Hugh et c'était pendant une fête sur un campus. Elle, c'était l'américaine, l'excellence académique et lui, c'était un futur poète qui aura beaucoup de succès et plus de succès qu'elle, d'ailleurs.
De son vivant,
de son vivant, mais qui continue à avoir une reconnaissance minime. En tout cas, Sylvia, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup plus de poétesses comme Emily Dickinson. Et c'est en parlant d'elle, Margot, que j'ai découvert Sylvia. Voilà.
Elle va se marier avec Ted Hughes et peu à peu rentrer dans le conformisme de la société en effectuant les tâches domestiques, ménagères, avec les enfants, elle va s'occuper de ses enfants. Et pendant cette période, justement, elle va écrire de moins en moins. Et c'est quand elle va découvrir l'infidélité de son mari et le quitter que ça va provoquer en elle l'envie d'écrire à nouveau. Et du coup, y a un extrait d'un poème dans lequel elle parle de cette infidélité qui m'a beaucoup perturbée. Elle écrit « J'ai fabriqué un modèle de toi, un homme en noir aux yeux Mein Kampf. Si j'ai tué un homme, j'en ai tué deux. Le vampire qui disait être toi et qui a bu mon sang pendant 1 an. 7 ans, si tu veux savoir. Papa, tu peux te recoucher maintenant. »
Oui, en effet, ils avaient une relation quand même assez toxique parce que déjà, les deux étaient tous les deux poètes et aussi écrivains. Donc déjà, il y avait une sorte de compétition entre eux. En fait, à la fois, ils se poussaient vers le haut, mais à la fois, lorsqu'il y en avait un qui réussissait mieux que l'autre, l'autre n'était pas forcément content pour lui. Et en plus, elle le vivait très mal, en fait, d'être dans son ombre.
Comme elle a peur de l'échec aussi.
Oui, puis elle vivait vraiment dans son ombre, en fait. Et lui, il réussissait, et pas elle. Et en plus de devoir vouloir écrire et être connue, elle avait aussi ce rôle de mère, aussi la femme des années 50, c'est-à-dire la femme au foyer. Et donc, c'était pas facile, en fait, pour elle. Et aussi, il faut savoir qu'elle a fait une fausse couche. Et en fait, c'est dû au fait que son homme la battait, en fait.
Et tellement elle allait pas bien qu'au bout d'un moment, au début, elle allait dans des hôpitaux psychiatriques pour interroger des patients qui étaient dans ces hôpitaux-là et pour écrire des poèmes sur les conditions, enfin la santé mentale, comment ça se passe à l'intérieur même du système. Et quelques années plus tard, elle va même y rentrer.
Ouais, elle va tomber en dépression et être internée pendant 5 mois. Et elle va d'ailleurs écrire un roman 10 ans plus tard sur ça, cette expérience. Mais elle est surtout connue pour son œuvre poétique remarquable et son roman semi-autobiographique The Bell Jar, La cloche de détresse en français. C'est son premier et unique roman qui est paru en 1963. C'est l'histoire d'Esther qui a remporté un concours. Et du coup, elle va partir en mission et s'envoler pour New York afin d'interviewer des autrices connues lors de soirées mondaines. Et du coup, ça va beaucoup parler de briller, exceller, se faire remarquer dans un monde de stars, en fait, avec
New Yorkais.
Ouais, voilà, monde new-yorkais, un peu Gossip Girl vibe. Yeah. Et du coup, l'autrice... Enfin, en fait, on va sentir le malaise du personnage d'Esther qui va être totalement en décalage avec l'univers qu'elle va rencontrer à New York. Et on sent ça par la voix de la narratrice, où on va lire sa conscience, mais le ton va être aussi très descriptif, ce qui va montrer justement le décalage entre l'héroïne et la vie qu'elle vit.
Et un truc que je trouvais très beau, c'est que au bout d'un moment, on dit que la maladie mentale, en tout cas dans le livre, c'est une cloche, elle est considérée comme une cloche de verre dont Esther... Du coup, alias Sylvia...
Oui, parce que c'est autobiographique.
Sylvia est prisonnière, et du coup...
C'est une belle métaphore.
Ouais, c'est une métaphore de sa vie.
D'ailleurs, on le voit aussi qu'elle est beaucoup plus à l'aise en Europe qu'aux États-Unis. Parce qu'elle a déménagé plusieurs fois. Elle va vivre à Londres. Puis ensuite, elle va même s'installer en France. Elle va écrire un poème, même sur Berck-Plage, dans son recueil Ariel. Mais aussi, ce qui est important à souligner, c'est aussi... ses poèmes parlaient beaucoup d'elle, en fait. Hein, beaucoup de ce qu'elle vivait, de ses ressentis et tout. Elle dénonçait aussi beaucoup la société, en fait. C'est ce qui fait son succès, c'est que pour la première fois, une poétesse raconte les expériences physiques et charnelles de la condition féminine, le désir lourd, les fausses couches, la peur de la stérilité, l'avortement, mais aussi le quotidien, le prosaïque, les casseroles sales, le pot-au-feu. Elle représentait un peu une génération de femmes qui ne parlaient pas et ne s'exprimaient pas sur ce qu'elles vivaient. Et d'ailleurs, c'est après sa séparation avec son ex-mari qu'elle va être la plus productive en termes de poésie, en fait, et d'écrivaine.
Ouais, elle va vraiment s'affranchir des règles d'écriture conventionnelles du poème et sortir de l'académisme et pour parler de des expériences intimes et personnelles, comme on peut voir maintenant au cinéma avec le film. Enfin, la théorie du female gaze introduite par Laura Mulvey où... on parle plus de. On essaye de se focaliser plus sur l'expérience féminine, le corps de la femme et the embodiment of.
Par le prisme féminin et non pas par la sexualisation masculine.
Exactement.
Le male gaze.
Puis on en parlait, elle avait une relation aussi avec les hommes assez. enfin, à la fois, elle les admirait parce qu'elle était là, enfin, elle trouvait qu'ils avaient une sorte de liberté en eux, ils avaient tout le champ des possibles, ils pouvaient, s'ils le voulaient, partir avec leur maîtresse, comme tu le disais, et elle écrit même, et à la fois, donc c'était une sorte de haine contre eux parce que.
Elle les jalousait, elle les enviait.
Oui, c'est ça, et même elle écrivait des poèmes, enfin, dessus.
Elle dit, en 1958, je détestais les hommes parce qu'ils n'avaient pas à souffrir comme les femmes alors qu'elles subissaient l'accouchement. Elle parle, du coup, des hommes comme des êtres infâmes.
Et c'est en 1963 que Sylvia met la tête dans le four de la gazinière, ouvre le gaz et attend sa fin. Donc du coup, elle commet un suicide. Auparavant, elle avait bien mené son coup parce qu'elle avait calfeutré la porte de la cuisine et préparé sur la table des biscuits et du lait pour ses enfants qui dormaient à l'étage supérieur et qui échapperont à l'empoisonnement par le gaz du coup.
Elle est morte super jeune. Elle avait à peine la trentaine.
Ouais, c'est ça.
Qu'elle a fin ses jours.
Mais en fait, même elle avait déjà fait des tentatives de suicide quand elle avait l'âge de 20 ans. Depuis son suicide, justement, elle est devenue une figure emblématique dans les pays anglophones. Les féministes ont vu son œuvre comme une œuvre archétype du génie féminin écrasé par une société dominée par les hommes. Et d'autres voyaient en elle une icône dont la poésie, en grande partie publiée après sa mort, fascine comme la bouleversante chronique d'un suicide annoncé. Et même, ça va devenir une expression. Plath est devenu un nom, une marque, une expression. To do a Sylvia Plath. Donc c'est vraiment devenu... en tout cas, peut-être en France, on la connaît moins. Mais je sais que beaucoup de mes amies qui sont étudiantes en littérature anglaise, c'est vraiment une référence.
Okay.
Et c'est d'ailleurs 2 ans après sa mort que va paraître Ariel, son recueil de poèmes. Ça va créer une vague où beaucoup d'adolescentes vont se suicider. Et énormément de féministes vont s'emparer justement de son histoire pour défendre leur cause. Et beaucoup justement vont accuser son mari en fait d'être un peu coupable de sa tristesse et de son mal-être.
Et d'abord c'était son père l'initiateur de son mal-être et en plus son mari qui en rajoute. Du coup on peut voir que la mort de son père ça l'a marqué toute sa vie et ça l'a même hanté en fait.
Bah oui, même
ça a conduit à sa perte finalement.
Et même son fils parce qu'en fait son fils va jamais s'en remettre et va même aussi se suicider. Par pendaison en 2009, à l'âge de 47 ans.
Toujours c'est quand même super brutal.
C'est quand même assez c'est quand même une génération, une famille assez dure. Enfin, c'est quand même beaucoup de drames.
Ouais,
de
une lignée dramatique.
Ouais, ouais.
Ouais, qui en fait suit les pas de son prédécesseur parce que ça traumatise en fait.
Ouais, ça reste dans l'ADN.
Ouais. En tout cas. Bon, ouais. finissons sur les mauvaises ondes, mais qu'est-ce qu'on retient de cette femme?
Une femme inspirante et dont on ne parle pas assez, à mon goût.
Très travailleuse, très exigeante et très ambitieuse. Mais malheureusement, elle est née à une époque où les femmes n'étaient pas faites pour avoir des ambitions, entre guillemets. Enfin, on ne les encourageait pas à ça, en tout cas.
Ouais.
On espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très bientôt. Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.